Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 11 septembre 1733, Stanislas Ier Leszczyński est réélu roi de Pologne. Le 1er février 1733, l'électeur de Saxe, Auguste II, décède à Varsovie. La Pologne se trouve sans souverain. Cette bien singulière république est en effet gouvernée par un roi, élu par l'assemblée des quelques 60 000 notables du royaume. En 1709, Auguste II, appuyé par la Russie et le Saint-Empire, écarte du trône Stanislas Ier Leszczyński, soutenu par le roi de Suède, Charles XII. Après maintes tribulations, le souverain déchu s'installe en 1719 à Wissembourg, où le régent Philippe d'Orléans lui accorde l'hospitalité. Accompagné de son épouse Catherine Opelinska et de sa fille Marie, il séjourne dans cette localité du nord de l'Alsace entouré d'un petit groupe de Polonais fidèles. La reine de Suède, Ulrike, verse irrégulièrement la pension accordée par son frère le défunt Charles XII, auquel elle a succédé. Stanislas en est réduit à louer une grande maison bourgeoise. Bientôt, il met en gage les bijoux de son épouse et sa propre argenterie. Un coup de théâtre le tire de la misère. À Versailles, le duc de Bourbon est devenu premier ministre au lendemain de la mort subite du régent. Il s'inquiète de la postérité du jeune roi Louis XV. Aussi fait-il dresser une liste des princesses européennes dignes de l'épouser. Marie Leszczyńska, la fille de Stanislas, que Madame de Prie, l'intrigante maîtresse du duc de Bourbon, a rajoutée à la liste des prétendantes, s'impose comme la favorite. Elle est fraîche, douce et paisible. Elle a 7 ans de plus que Louis XV et n'est pas d'une parfaite beauté, détail sans importance. Marie sera incapable d'exercer une influence politique à la cour et ses parents, démunis de tout, ne seront pas encombrants, et c'est là le principal. Le 2 avril 1725, Stanislas Leszczyński est informé de la volonté de Louis XV d'épouser sa fille. Dès que l'union nuptiale est annoncée, il quitte Wissembourg et s'établit à Strasbourg en l'hôtel du Dragon. Le mariage par procuration est célébré en la cathédrale Notre-Dame le 15 août. Le roi est représenté par le cardinal Armand Gaston de Rohan, titulaire du trône épiscopal de Strasbourg et grand aumônier de France. Puis, c'est la séparation. Stanislas et son épouse Catherine, selon le protocole, n'assistent pas au mariage officiel qui se déroule en la chapelle royale du château de Fontainebleau le 5 septembre. Louis XV attribue à ses beaux-parents le château de Chambord, inhabité depuis près d'un demi-siècle. Stanislas s'y ennuie. Chaque année, il séjourne 2 ou 3 semaines à Versailles. À la mort du roi Auguste II, les cours européennes s'agitent. L'empereur Charles VI soutient la candidature du fils du défunt, également prénommé Auguste. La tsarine Anna Ivanovna se range à cet avis. En France, le cardinal de Fleury, nouveau Premier ministre, est pacifique. En revanche, Germain-Louis Chauvelin, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, représente le parti anti-autrichien. Il souhaite replacer Stanislas sur le trône de Pologne. Le cardinal Fleury approuve finalement cette idée. La France annonce officiellement la candidature du beau-père de son souverain. Chauvelin use d'un habile stratagème. Persuadé qu'au cas où il serait élu, Stanislas arriverait trop tard à Varsovie, il annonce que son candidat gagne la Pologne en passant par Brest, la mer du Nord, la Baltique et Danzig. Aussi, il lui faut 4 à 5 semaines pour atteindre sa patrie. En réalité, c'est un sosie qui quitte Versailles. Pendant ce temps, déguisé en voyageur de commerce, Stanislas, accompagné d'un ami, monte dans une voiture légère et rapide, en 10 jours seulement, par Cologne, Hambourg et Berlin, il gagne l'Oder. Là, l'ambassadeur de France à Varsovie, le comte de Monti, l'attend. Avec lui, Stanislas traverse le fleuve, il se dépouille de ses vêtements bourgeois, reprend son uniforme et barre sa poitrine du grand cordon bleu du Saint-Esprit pour affirmer le soutien de la France à sa candidature. Stanislas parvient à Varsovie au matin du 8 septembre 1733, 2 jours avant l'élection royale. Surprise générale. La nouvelle se répand, la capitale polonaise l'acclame, il est élu le 11 septembre à une énorme majorité. Pour la seconde fois, il monte sur le trône de Pologne. Sa joie est cependant de courte durée. Le 13 septembre, les avant-gardes russes s'approchent de la Vistule. Stanislas dispose que de faibles troupes. Il transporte son gouvernement à Danzig, situé à l'embouchure de la Vistule. Cette ville dispose d'un port en communication avec la Baltique. Elle est également entourée de solides remparts que protège une ceinture de forts. Au début de l'année 1734, la France déclare la guerre au Saint-Empire. La campagne militaire s'ouvre à la fois en Allemagne et en Italie. Les Autrichiens n'opposent qu'une très faible résistance. En Rhénanie, le maréchal de Berwick s'empare de Philippsbourg, après avoir franchi le Rhin à Kehl. En Italie, le maréchal de Villars occupe la Lombardie, à l'exception de Mantoue. Pressé par la reine, Louis XV envoie par la voie maritime un corps expéditionnaire de 3000 hommes vers Danzig, maintenant assiégé par 40 000 Russes et 30 000 Austro-Saxons. Une première tentative de débarquement des troupes françaises échoue. La seconde réussit, mais la tête de pont établie par les Français est submergée par les assiégeants. À Danzig, c'est la consternation. Quelques jours plus tard, les Russes s'emparent de la colline qui porte le principal fort défendant les remparts. Les batteries de canons font pleuvoir des boulets sur la ville. La reddition de Danzig paraît inéluctable. Guidé par un batelier, Stanislas tente de gagner la Prusse orientale. Déguisé en paysan, il quitte Danzig le 27 juin 1734. L'Odyssée commence. Elle se poursuit durant 6 jours et constitue l'épisode le plus rocambolesque de son existence agitée. Marchant la nuit, se cachant le jour, risquant à plusieurs reprises d'être pris, Stanislas parvient sur les rives du Nogat. Il le traverse, il est sauvé. En France, l'annonce de son exploit provoque une explosion de joie. En Allemagne comme en Italie, les armées françaises sont victorieuses. L'Autriche perd toutes ses possessions italiennes. Certes, le fils d'Auguste II est élu à Varsovie sous la pression concertée des troupes russes et autrichiennes. Mais l'Autriche est vaincue. Après de longues négociations, les préliminaires de paix sont conclus. Le duc François de Lorraine, qui doit épouser l'archiduchesse Marie-Thérèse d'Autriche, renonce à son duché. En attendant sa prochaine élection impériale, il reçoit le grand-duché de Toscane. Stanislas Ier abdique le trône de Pologne en faveur d'Auguste III. Il conserve néanmoins son titre royal et devient sa vie durant duc de Lorraine et de Bar. À sa mort, le duché reviendra à la France. Tous les biens fonciers de Stanislas, de son épouse et des nobles qui l'ont soutenu sont restitués à leurs propriétaires. Le séquestre qui les frappait est levé. Enfin, la France restitue à l'Empire les territoires occupés en Allemagne et en Italie. Il faut attendre de longs mois avant que le traité de paix soit signé à Vienne. Mais en mai 1736, Stanislas regagne la France. il s'installe d'abord au château de Meudon, puis rejoint son duché de Lorraine, sur lequel il règne jusqu'à sa mort, à 89 ans, le 23 février 1766, au château de Lunéville. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de vous présenter la chronique littéraire. Un jour, trois livres. Ce sont quatre livres exceptionnellement aujourd'hui. Chronique qui a été préparée par Emmanuel. C'est Renaud qui nous accompagne en chanson durant cette émission. Nous écoutons l'un des de ses premiers succès. C'était en 1975, Hexagone.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passe les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y'en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort, mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coule à rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie, ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août c'est la liberté, après une longue année d'usine, ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin fermente en tonneau. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leurs Côtes-du-Rhône et leurs Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers derniers modèles de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindes marron. Être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour, trois livres, quatre. Aujourd'hui, je vous le disais, pour commencer aux éditions Gallimard, une réédition, le docteur Jivago, le chef-d'œuvre de Boris Pasternak, dont je vous restitue en quelques mots, l'intrigue. Youri Jivago, très jeune orphelin, grandit dans la Russie du début du XXe siècle. Il traverse la révolution de 1905 et, mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, part au front, vit les événements de la révolution d'octobre et les années qui suivent jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire du peuple russe et de la Sibérie notamment, qui est ainsi retracée par le héros, médecin et poète. C'est aussi une formidable histoire d'amour. Le roman a été publié pour la première fois en Italie en 1957. Il a été la base d'un scénario d'un des plus beaux films de l'histoire du cinéma avec David Lean en 1965. Il fut interdit en Union soviétique et a été intégré dans les programmes scolaires russes en 2003. Le docteur Jivago de Boris Pasternak s'est réédité par Gallimard. Toujours chez Gallimard, dans la collection Biographie de l'arbalète, Françoise Fenkel nous livre Portrait d'une inconnue, Corinne de France. C'est en menant des recherches sur l'unique librairie française dans le Berlin de l'entre-deux-guerres que l'auteur historienne a retrouvé les traces de Françoise Fenkel. D'abord, dans les archives suisses, pays où l'ancienne libraire avait pu se réfugier, puis dans les archives allemandes qui avaient conservé sa demande déposée en 1958 de dédommagement d'une malle spoliée à Paris par l'occupant allemand. Françoise Fenkel, née le 14 juillet 1889 en Russie et morte le 18 janvier 1975, fut libraire à Berlin et auteur d'un seul ouvrage, Rien où poser sa tête. Son époux, Simon Rechenstein, s'exile à Paris en 1933. Elle le rejoint en 1939. Simon, victime d'une rafle en 1942, décède à Auschwitz en août de la même année. Elle, en 1940, se réfugie en zone libre, puis parvient à gagner la Suisse. Son unique livre est un témoignage sur les circonstances de sa vie et de son exil en France. Elle revient dans notre pays au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Françoise Fenkel, Portrait d'une inconnue, c'est signé Corinne de France et c'est publié aux éditions Gallimard. Toujours chez Gallimard, dans la même collection que l'ouvrage précédemment évoqué, « Zone de la douleur » de Françoise Frenkel. Un parent éloigné de Françoise Frenkel a exhumé chez lui, en Suisse, un carton conservé pendant 40 ans, contenant des archives de l'auteur disparu en 1975. L'ensemble mêle des tapuscrits en français et en allemand qui font découvrir les débuts littéraires de Françoise Frenkel à travers des textes publiés en revue dans l'entre-deux-guerres, et ses thèmes de prédilection sont l'enfance, l'amour des livres et de la librairie, l'antisémitisme à Berlin, Nice comme ville-refuge, les rencontres d'une vie. Mais il témoigne aussi de la difficulté d'une survivante de la Shoah à reprendre pied dans la société française de l'après-guerre et ses tentatives pour faire entendre le drame auquel elle a échappé et qui n'a pas épargné sa famille et tout particulièrement son ami Simon, son mari, excusez-moi, Simon Regenstein. Zone de la douleur, Françoise Frenkel, c'est aux éditions Gallimard. Et pour terminer cette chronique, un ouvrage de Louis-Ferdinand Céline qui vient d'être publié, là encore par Gallimard, « La volonté du roi Krogold, suivie de la légende du roi René ». Voici des inédits de Céline mis à jour en 2021, qui démontrent l'importance de la légende gaélique pour l'auteur. C'est le récit de la guerre menée par le roi Krogold contre le prince Félon Gwendor, du meurtre du procureur Morvan par le trouvère Thibaut et de la passion de Joad pour la belle Vanda. Le tout se déroule entre la Bretagne et la Scandinavie, dans un décor plutôt improbable. L'écrivain, faute d'avoir pu le publier, en inséra le récit fragmenté dans « Mort à crédit », publié en 1936, ainsi que dans « Guerre » et dans « Londres ». Puis il continua ensuite d'y travailler, sans toutefois parvenir à y mettre un point final. C'est aussi le résultat de la méditation de Céline sur l'existence et la mort et le corps et l'âme. Cet ouvrage réunit les deux versions connues à ce jour de la légende, inédite et inégalement inachevée. L'une datant de la première moitié des années 1930, la légende du roi René, l'autre, la volonté du roi Krogold, écrite en 1939 et 1940. La volonté du roi Krogold, suivie de la légende du roi René, ce sont deux inédits de Louis-Ferdinand Céline qui viennent d'être publiés par les éditions Gallimard. Ainsi s'achève cette émission Historama. C'est en chanson que nous allons nous séparer après avoir remercié Thomas qui a réalisé cette émission. Nous écoutons Renaud, un titre de 1977, « Laisse-béton ».
J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elle me botte. Je parie que c'est les Santiago, viens faire un tour dans terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. M'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. D'un blouson mecton, il est pas bidon. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec Sacheré un vrai rocker, viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel, et je te chouraverai ton blouson, moi j'ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Tu as le même blue jean que James Dean, tu arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote.
Thank you.